Avant de lire les textes qui porteront la méditation de ce jour, nous prions. Par l'Esprit qui fait naître la foi et nous rassemble dans l'Église du Christ, Éternel notre Dieu, ouvre nos esprits, afin que ta parole vienne élargir nos existences dans ta bénédiction. Amen. Nous lirons tout d'abord dans le livre des Actes, au chapitre 2, le texte de Pentecôte, du don de l'Esprit au chapitre 2, donc les versets 1 à 13. Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Et puis je vous invite à entendre dans le premier livre de Samuel, le texte sur lequel portera particulièrement la prédication aujourd'hui. Dans le premier livre de Samuel au chapitre 3, les versets 1 à 11. Le jeune Samuel officiait pour l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Il courut vers Élie et dit « Me voici, tu m'as appelé ?» Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Il alla donc se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla trouver Élie et dit « Me voici ». « Tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne s'était pas encore révélée à lui. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla trouver Élie et lui dit, « Me voici. Tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, « Va te coucher. S'il t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, ton serviteur, moi, j'écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint et se tint là. Il appela comme chaque fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, moi, ton serviteur, j'écoute. » Le jeune Samuel se lève, se tient devant Élie et dit « Me voici ». Nous venons de voir deux jeunes filles se lever, se tenir devant nous et parler. Et leur prise de parole, c'était aussi une manière de dire « Me voici ». Me voici, moi, Elsa. Me voici, moi, Sophie. Me voici. Et c'est dans le prolongement de ces deux mots, parce que ces deux mots imprègnent sa personne et cet instant, que Samuel finit par dire à l'Éternel « Parle, ton serviteur écoute ». Et c'est aussi parce qu'Élie a dit à Samuel qui l'appeler et comment répondre. De même, ce que Sophie et Elsa ont dit, elles l'ont dit dans l'élan d'un « me voici », même si elles n'ont pas prononcé ces deux mots. Et puis elles l'ont dit parce que d'autres personnes, depuis des années, les ont aidées, accompagnées, afin qu'elles puissent parler devant nous un jour, et ce jour, c'est aujourd'hui. Samuel ne connaissait pas l'Éternel, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de relation avec Dieu. Cela ne l'empêchait pas de savoir un certain nombre de choses, parce que Samuel servait Élie, le prêtre du sanctuaire de Silo, sanctuaire où brillait la lampe de Dieu et où était déposé le coffre de l'Éternel. Donc Samuel avait des connaissances sur le culte, les rituels, les sacrifices, mais il ne connaissait pas l'Éternel. La parole de l'Éternel ne s'était pas révélée à lui. Ce récit évoque un temps et une forme de religion où la parole de Dieu passait par l'intermédiaire des prophètes, des hommes de Dieu qui transmettaient les messages divins. Samuel sera l'un de ceux-là et l'un des plus grands. Mais il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Ce n'est plus le temps des intermédiaires obligés, des médiateurs incontournables. Aujourd'hui, c'est le temps où chacun peut entendre la parole pour sa vie, l'entendre par l'Esprit, l'Esprit dont nous célébrons le don à Pentecôte et qui n'est pas réservé à quelques-uns. Mais le récit, ce récit de Samuel, nous aide à comprendre quelque chose de la parole qui appelle et de celui ou de celle qui répond. Samuel, Samuel ! L'appel n'est pas lancé aux quatre vents. Il est adressé à une personne précise, distincte, singulière. Même si Samuel ne sait pas encore qui l'appelle, c'est bien lui, c'est vraiment lui qui est appelé. Une parole qui appelle, un nom qui se fait entendre et résonne doucement ou bruyamment. Et c'est un commencement. C'est toujours un commencement, un avènement, comme une naissance au monde et à soi. Et c'est ainsi que les textes bibliques témoignent que Dieu est pour nous Dieu en relation. Sa parole n'est pas un son perçu par les oreilles, comme lorsque quelqu'un parle. Comme Elsa et Sophie l'ont dit, et avec beaucoup plus de véhémence en séance de catéchisme qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas un quelqu'un. La parole n'est pas un son, mais un saisissement qui survient, qui surprend. Elle est une brèche dans la pensée ou dans l'ignorance, dans les convictions ou les habitudes. Une brèche par laquelle passe un éclairage. La parole est une puissance de transformation et d'orientation vers plus de beauté et de bonté, vers un surcroît, une plénitude de vie vivante. Et à cette parole est associé le souffle, car pour parler, il faut du souffle. Nous pouvons tous faire cette expérience. Et c'est par le souffle divin que nous discernons cette parole divine et que nous la recevons. C'est le souffle qui la transmet et nous la fait comprendre. C'est le souffle qui la fait agir en nous. Dans la manière de parler de Dieu et de la foi, le souffle et la parole sont étroitement liés pour exprimer que Dieu communique et que ce qu'il communique transforme celui ou celle qui l'entend, qui le reçoit. Parole et souffle, ce sont des mots-images qui ne prétendent pas affirmer une vérité sur ce qu'est Dieu en lui-même, mais qui rendent compte de Dieu avec nous. Et sérieusement, nous ne pouvons rien dire de plus sinon ce serait vaine spéculation. Samuel, Samuel. Et Samuel répond, me voici. Deux mots en français, un seul mot en hébreu, hineni. Et c'est un des mots très importants de la Bible. Une parole humaine qui répond à un appel. Hineni, c'est une parole prononcée par Abraham et par Ésaïe, par Samuel et par Ézéchiel, par le psalmiste et par Isaac, par Jacob et par Zacharie et tant d'autres. C'est une parole incarnée par Jésus, répondant par sa vie, acte et parole, jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie et jusqu'à la perdre, répondant à la parole entendue lors de son baptême, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Hineni, me voici. C'est un mot pour dire toute la densité d'une présence humaine. Je suis là, présent, je ne me cache pas, je ne fuis pas. Me voici, hineni, sans protection, sans masque, sans ambition, mais dans la simplicité et peut-être le dénuement de mon être. Hineni, me voici, sans ruse ni tentative de manipulation, sans duplicité visant à se servir de Dieu à coup de sacrifices, de bonnes œuvres, de serments ou de prières. Hineni, je m'avance, je m'expose et je me tiens là. Pas comme un héros ou une héroïne qui suscite l'admiration des foules, ni comme un accusé devant un tribunal, mais dans la simplicité, dans la fragilité d'un enfant. Ainsi, Elsa et Sophie se sont-elles tenues devant nous, parce qu'elles ont entendu un appel. Comment l'ont-elles attendu ? Cela leur appartient. Et ce n'est pas toujours facile de dire la manière dont la parole nous a saisis, comment et quand nous nous sommes sentis appelés, concernés, convoqués, de manière à pouvoir répondre « Me voici ». Qui est une parole, un acte de présence, un geste d'être qui ne peut être imposé, sinon ce n'est pas moi que voici. Et parce que l'appel signifie que Dieu a besoin de Samuel, de Sophie et d'Elsa, et de nous, besoin que des hommes, des femmes, des jeunes répondent à l'appel, à la parole qui surgit et qui saisit, qui les transforme et peut transformer le monde. C'est bien ce qui se passe aussi dans le récit de Pentecôte du livre des Actes. La parole de Dieu ne retentit pas dans le monde entier du haut des cieux. Elle passe par les disciples auxquels est donné le souffle, symbolisé par ces langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. Un souffle qui les fait parler de manière à être entendu et compris par tous ceux qui sont à Jérusalem, écrit Luc. La terre entière est rassemblée à Jérusalem dans ce récit, qui ouvre au récit des grandes traversées de Pierre et surtout de Paul, annonçant la bonne nouvelle à tous. Cela ne se fait pas sans nous, sans la réponse et la responsabilité libre et joyeuse de ceux qui se laissent saisir par l'appel, par la parole qui fait parler et qui répond librement et joyeusement, « Me voici. » Samuel, Samuel, l'appel distingue le jeune garçon, personnellement, singulièrement, en termes religieux, cela se dit une vocation. Mais celui ou celle qui répond, toujours et seulement en son nom propre, n'est pas isolé. Il ou elle est précédé d'une vaste assemblée, celle de tous ceux qui ont déjà répondu. Aujourd'hui, nous appelons Église l'ensemble de celles et ceux qui ont été et sont appelés, à travers le temps, à travers l'espace, en entendant les témoignages des évangiles, les témoignages d'autres humains, ce que Jésus de Nazareth, le Christ, révèle de Dieu. Nous appelons Église l'ensemble de ceux qui ont entendu d'une manière ou d'une autre une parole pour eux, de quelque manière que ce soit, et qui se mettent en recherche, qui se mettent à parler, à échanger, qui partagent ce qu'ils découvrent et qui transmettent des gestes et des mots. L'Église est le lieu de la multiplication des paroles, des pensées, des idées, des compréhensions, des interprétations. Et tout cela n'est pas n'importe quoi, c'est le lieu de la vie même. Ce que le récit de Pentecôte illustre, avec ses disciples qui sortent et parlent et qui sont compris de tous. Et quand le récit dit disciples, ce n'est pas seulement les 12, mais tous ceux qui étaient avec eux, et Luc un peu plus haut a donné le chiffre de 120 des femmes, des hommes, et certainement des jeunes aussi. Et vous aussi, Elsa et Sophie, vous avez des paroles à transmettre, à offrir, des ouvertures, de l'horizon, un bout de chemin. L'esprit, le souffle de Pentecôte, c'est un grand mouvement, une vaste discussion rebondissant des uns aux autres, dans laquelle passe la parole, dans laquelle elle traverse, elle perce. Ceux pour qui la figure de Jésus parle de Dieu le révèlent à leur tour en donnant à d'autres de quoi répondre à l'appel et poursuivre leur quête. Ils donnent des paroles, des expressions, des nuances pour formuler ce qui se passe en soi et ce qui passe entre nous. L'Église est un lieu de reconnaissance, reconnaissance de la transcendance qu'on y désigne par le mot « Dieu » qui n'est pas un nom, reconnaissance de chacun par les autres et reconnaissance, presque dans le sens de découverte, de soi. Et cela afin que chacun puisse répondre de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a saisi, de sa quête, de ce qu'il a compris et qui devient part de lui-même ou d'elle-même. L'Église de Pentecôte est le lieu, l'ensemble de ces personnes attentives aux résonances entre des paroles, celles de la Bible, celles d'autrui et les leurs, et des personnes attentives aux résonances entre ce qui est offert, ce à quoi chacun aspire et ce que chacun découvre chemin faisant. Élie finit par comprendre qui appelle Samuel. Et il lui indique de dire « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Eh bien, Élie est à ce moment-là un passeur de spiritualité, un ouvreur d'esprit. Il donne des mots et des images au jeune Samuel. Peut-être est-il conscient qu'il s'agit d'un héritage, de son héritage à Samuel. Samuel ne sera pas Élie. Mais en cet instant, il reprend les mots qu'Élie lui a donnés. « Parle, ton serviteur, écoute. » Et c'est tout un travail, une quête spirituelle d'écouter, une quête de l'âme, du cœur, de l'esprit, de l'être, car l'écoute est une composante indispensable de la vie vivante. Écouter Dieu, écouter les autres, écouter le monde et écouter soi-même aussi. Écouter pour ne pas confondre les multiples voix qu'on entend et d'autres personnes nous y aident. Écouter, comme le fait retentir le premier mot du décalogue, les 10 paroles de vie. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Écouter comme le nom de Samuel le porte, puisque Samuel signifie « Dieu écoute ». Parle, ton serviteur, écoute. Serviteur. Ce mot donné par Élie à Samuel vient autant de la position de Samuel, qui est déjà dans le temple serviteur du prêtre qui sert l'Éternel, que d'une compréhension de la relation entre Dieu et l'humain. Serviteur, le mot peut surprendre, rebuter même parfois aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de parler de la foi, de la confiance, de la relation à Dieu. Cependant, c'est aussi un mot que Jésus endosse et transmet à ses disciples, en ce que ce service ne consiste pas en une soumission muette et irresponsable, mais en une reconnaissance d'autrui comme personne porteuse d'un reflet du divin. Serviteur, c'est l'exemple que Jésus de Nazareth donne à ses disciples en leur lavant les pieds, c'est-à-dire en prenant soin d'eux et en les honorant. Il n'y a rien d'humiliant ni de dégradant à être de ces serviteurs-là, au service de l'humain, au service de chacun, au service de la divine volonté de vie. Ces serviteurs-là ne répondent pas à des ordres, ils répondent à la grâce, à l'amour, à la confiance qui leur est faite et à l'espérance qui est déposée en eux. Serviteur, c'est le mot donné à Élie, par Élie à Samuel, mais il en est d'autres pour exprimer la relation entre l'humain et Dieu. Il y a le mot enfant qui est donné, par exemple, dans la liturgie des baptêmes. Le mot disciple reçu à travers la lecture des Écritures. Le mot heureux donné par Jésus dans le discours sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu. Et d'autres mots encore, car un seul mot ne suffit pas, ne suffit jamais pour dire les merveilles de Dieu à notre égard. De même qu'Élie désigne Dieu à Samuel avec l'aide de ce qu'on appelle le tétragramme, quatre lettres hébreues qu'on ne prononce pas, qui expriment une dynamique de vie. Mais il est bien d'autres manières de le désigner ce Dieu pour lui parler ou pour parler de lui. Et chacun par héritage, par conviction, par le don du souffle divin, peut trouver le souffle de mots, d'expressions, qui ne seront pas le nom de Dieu, mais sa propre manière de le désigner. Elsa a dit aujourd'hui « origine et message ». Sophie a dit aujourd'hui « lumière ». Hineni, me voici. C'est le mot, la parole de celui ou celle qui parle. Me voici. Devant toi, Dieu, je me tiens. Devant vous, je me tiens. C'est une parole de sujet, une réponse à un appel personnel, et ce qui importe, c'est d'ainsi se présenter. Il n'est pas besoin de justifier de mérite, ni même d'une identité très définie. L'identité de celui ou de celle qui est appelé, c'est l'affaire de Dieu. Il est tout à fait possible de répondre « me voici » sans savoir exactement qui l'on est, ni qui l'on deviendra, sans attendre d'avoir construit et établi une identité. Me voici, hineni, sans description, sans précision, sans complément, sans narration supplémentaire, et cela suffit. Jésus de Nazareth n'a pas choisi ses disciples en épluchant une liasse de curriculum vitae. Un sujet se lève, sujet écoutant et sujet parlant, et qui n'est pas bloqué dans sa réponse du moment, de l'instant, car la fidélité, c'est bien autre chose que la conservation ou la crispation. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce sujet qui se lève en disant « Hineni » est de toute manière, toujours, un sujet qui se met en quatre, un sujet qui se met en jeu, en tu, en il ou elle et en nous. Le jeu du sujet qui parle, le tu de la personne qui lui parle ou à qui il parle ce sujet, que ce soit Dieu ou autrui, le il ou le elle de ceux que le sujet va servir, aider, honorer et aimer, et puis le nous de ceux avec lequel celui ou celle qui parle est relié dans le souffle. Elsa, Sophie, vous avez porté ici aujourd'hui votre parole de personne, de sujet responsable. Et vous voici, chacune appelée à la porter encore et à nouveau. Et nous ici, nous vous écouterons et nous vous parlerons. Nous parlerons ensemble des merveilles de Dieu, de ce que c'est que devenir humain, dans ce monde agité et incertain, de ce qui nous tient vivants et les uns avec les autres, et qui est désigné en un mot par celui d'Évangile. Et nous irons le dire encore à d'autres, nous irons le vivre parmi eux, avec eux, respirant et inspirés par le souffle de Pentecôte. Amen.